Chapitre 6 Des accordés et points déposés. Les arrivants de Southampton furent reçus à Clèves par Sir Hugh, M. Tyrold et Lavinia. Le baronnet caressa particulièrement ses deux nièces qu'il regardait déjà comme mariées, avec une joie qui l'empêcha d'observer leur tristesse. Il attribuait la confusion que son erreur leur causait en l'embarras naturel des jeunes filles dans cette situation. L'absence des futurs lui parut étrange. Mais, dit-il, c'est apparemment la nouvelle mode. M. Tyrold, en les embrassant, évita leurs yeux, dans la crainte d'augmenter l'embarras qu'il attribuait à la même cause que son frère. Assis gravement sur son siège, il tâchait de se distraire de ses tristes pensées en participant à la joie du baronnet. Mais Lavinia, frappée de la profonde affliction de ses sœurs, épia l'occasion de leur en demander le motif. « Oh, ma foi, dit Sir Hugh, je n'attendrai point la commodité de ces messieurs pour vous montrer ce que j'ai fait pour vous. Au reste, ils sont peut-être chez leur notaire, car je n'en ai pas encore vu paraître un, quoique leurs chambres soient déjà prêtes à les recevoir. » Il voulait leur faire parcourir toute la maison, mais elles le supplièrent de les en dispenser et concertèrent ensemble sur la manière dont elles s'y prendraient pour raconter leur affligeante histoire. Elles décidèrent que Camilla accompagnerait M. Tyrold à Estherington, mais qu'elle garderait le silence jusqu'au lendemain matin, et qu'alors Eugénia viendrait dévoiler le mystère. Lorsqu'elles revinrent auprès de leur oncle, elles apprirent qu'il avait forcé Miss Indiana, Miss Margland et jusqu'au docteur Orborn à visiter tous les préparatifs de noces. Son cœur sensible et généreux jugeait d'après lui celui des autres. Mais, aux yeux de la pupille ou de sa gouvernante, rien ne pouvait être moins agréable que les apprêts d'une scène où elle n'avait point de rôle. Et le docteur crut que tous les génies malfaisants s'étaient donné le mot pour le tenir éloigné de ses papiers et de ses études chéries. « Dans tout ceci, ce qui me paraît le plus étrange, s'écria le baronnet, c'est de voir que personne ne vient demander Indiana, tandis qu'on prend la petite Eugénia, que son propre cousin n'a pas trouvé assez jolie, ce qui n'est pas trop honnête. » Mais nous allons, j'espère, oublier tout cela, ainsi je lui pardonne. » Indiana fut si piquée qu'elle eut peine à se défendre de raconter l'aventure du portique chez le Lord Perville. Mais le baronnet n'observa point son agitation, et se tournant vers Camilla et Eugénia, « Eh bien, mes petites amies, leur dit-il, je ne vous parlerai pas de ce que nous sommes allés voir pendant votre absence. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que nous y retournerons tous ensemble sans que votre modestie s'en tourmente. » Il apprit avec un peu de surprise que Camilla suivait son père à Estherington, mais il indiqua pour le lendemain une assemblée générale où le docteur Marchmont devait être invité. Camilla fit la route d'Estherington presque sans dire un mot. Lavinia, qui savait la rupture avec Edgar, regardait tristement tantôt son père et tantôt sa sœur. Elle pensait douloureusement à son frère et tous trois déchiraient son cœur. M. Tyrold était le seul qui conservât un peu de courage. Craignant de blesser trop vivement la sensibilité de Camilla, dans un moment où son prochain changement d'état pouvait lui donner une infinité d'inquiétudes, il voulait la préparer par degrés à la malheureuse histoire de son frère qu'il était impossible de lui cacher. Mais il observa bientôt que sa tristesse excédait de beaucoup ce qu'il était possible d'attribuer à sa situation. Il soupçonna que Lionel avait fait une visite à Southampton. Peu sûr de Melmont, il fit à Camilla des questions au sujet de ce mariage, et par ses réponses, il apprit avec un extrême chagrin pour sa chère Eugénia que l'affaire était rompue. Lorsqu'ils furent arrivés, il conduisit Camilla dans son cabinet et lui demanda si elle avait eu quelques nouvelles de son frère. Un torrent de larmes qu'elle ne put retenir lui prouva que sa conjecture était juste. Il fut informé de toutes les particularités de l'entrevue, à l'exception des plaisanteries et de la légèreté de Lionel. Elle ne se permit point d'altérer la vérité en répondant aux questions directes de son père, mais sur tout le reste, elle se fit un plaisir de pouvoir ménager son frère en gardant le silence. Le projet de quitter l'Angleterre arracha des soupirs à M. Tyrold, mais il ne voulut point l'empêcher. Il jugea que Lionel était certain d'être poursuivi criminellement. Il aimait mieux le voir puni par la misère dans un pays étranger que par une longue détention dans sa patrie. M. Tyrold ne chercha point d'autre cause à l'affliction de Camilla. Mais quoique son père ne la questionnât plus, Quoiqu'elle fût dispensée de lui cacher ses larmes, elle souffrait de ne pas le désabuser. « C'est, lui disait-il tendrement, le sort heureux dont vous allez jouir, qui soutient aujourd'hui mon courage et m'aidera, ma fille, à consoler votre mère. » « Oh, mon père » s'écria-t-elle éperdue, « Lionel a moins !» Elle allait dire « a moins fait que moi pour votre malheur. » Mais elle n'osa pas prononcer ces derniers mots. « Prenez courage, » ajouta son père, « et ne vous laissez pas abattre par cet événement cruel. Le vertueux Edgar adoucira la douleur de votre digne et malheureuse mère et votre père, ma chère Camilla. » Il lui fut impossible de laisser plus longtemps M. Tyrol dans l'erreur. Pâle, tremblante, appuyée sur son épaule, « Oh, mon père !» lui dit-elle d'une voix expirante, « vous déchirez mon âme. Edgar m'abandonne. Il a quitté l'Angleterre. » Confondu de ce qu'il entendait, il exigea que sa fille levât sur lui les yeux et lut dans son regard la confirmation de cette nouvelle désespérante. Il s'assit et tâchant de déguiser son abattement sous un air calme, « Quel a donc été, lui dit-il, le motif de cette rupture ?» Camilla, se cachant une seconde fois derrière son père, lui répondit que dans la matinée du lendemain, il en serait informé par Eugénia. « J'attendrai, lui dit-il d'un ton tranquille, mais qui décelait pourtant la violence de son agitation. « Allez, ma chère enfant, joindre votre sœur Lavinia, ouvrez-lui votre cœur, vous trouverez dans sa tendre amitié de douces consolations. » Mon cœur est pour le moment trop ému, j'aurai besoin d'un peu de temps et de solitude pour supporter cette épreuve. » Il lui tendit une main qu'elle baisa respectueusement en la mouillant de ses larmes. « Je sais, lui dit M. Tyrol, combien vous êtes sensible à ma peine, quoique ma perte ne soit rien en comparaison de la vôtre. Cependant, vous êtes jeune et vous pourrez l'oublier. Mais votre mère, ma chère Camilla, c'est pour votre infortunée mère que mon cœur saigne. » Dès le grand matin, Eugénia fut dans la chambre de Camilla. Sa figure était rayonnante et paraissait presque céleste, malgré les ravages de la maladie qui l'avait mutilée. C'était le pur éclat de la générosité, de la vertu. « Camilla !» s'écria-t-elle avec transport. « Tout est convenu, tout est d'accord avec mon oncle. Indiana, vous n'en serez pas surprise, a donné son consentement et je viens d'écrire à Mel... » Malgré sa joie, la parole lui manqua pour prononcer le nom. Elle rougit et, souriant avec effort, « Ma sœur, dit-elle, ne me féliciterez-vous pas d'un succès aussi prompt ?»« Chère et généreuse Eugénia, répondit-elle, ce n'est pas seulement des félicitations que je vous offre, mais le juste tribut de mon estime et de ma vénération. Vous êtes la digne fille de la plus respectable des mères, et c'est en vous que nos vertueux parents trouvent leur récompense. » M. Tyrol ne tarda pas à lui faire savoir qu'il l'attendait dans sa chambre. Camilla, tremblante et la serrant dans ses bras, lui dit « Vous ferez plus pour moi que je ne le pourrai moi-même. Mais de grâce, épargnez le pauvre Lionel et rendez à M. Mandelbert toute la justice qu'il mérite. » Eugénia suivit strictement ses intentions. En ménageant Lionel, elle ménageait aussi la sensibilité de son père, dont les circonstances relatives à Sir Sedley Clarendel auraient aggravé la douleur. En rendant justice à Mandelbert, elle se flattait de préparer les moyens de le réconcilier avec Camilla. M. Tyrol apprit simplement par elle qu'il s'était quitté à la suite de quelques légers différends. Il partagea l'espoir d'Eugénia pour une réunion et résolut d'éviter à son frère le chagrin de cet incident jusqu'à ce qu'il pût mieux juger quelles en seraient les suites. Il fit les plus tendres caresses à Camilla, sans oser toutefois lui confier son espoir. Connaissant son imagination ardente, il aimait mieux être trompé seul dans son attente que de l'exposer à partager son erreur et sa peine. Il la blâma d'avoir pu concevoir des doutes sur la sincère estime d'Edgar, dont la promesse était toujours suivie de l'exécution, et qu'il supposait atteint de quelques soupçons injustes. Elle écoutait en silence des suppositions auxquelles il était impossible qu'elle répondît sans raconter l'histoire de Sir Sedley. « Non, se disait-elle, non, Lionel, je ne vous trahirai pas. J'ai tout perdu, mais puisque ma perte est irréparable, je n'aigrirai point contre vous le ressentiment de mon père, que votre inconduite afflige déjà trop cruellement. » Il apprit d'Eugénia la fin de son histoire avec la plus grande admiration. Elle reçut la récompense qui pouvait seule satisfaire son cœur, l'approbation de son père et la certitude d'être approuvée par sa mère lorsqu'elle serait informée de cette généreuse action. Malgré tout ce qu'Eugénia avait pu dire à son oncle de favorable à Melmont, il avait écouté avec un mélange de chagrin et de colère. « Cependant, dit-il, puisque tout est préparé pour les deux mariages, je ne puis pas consciencieusement, après avoir tant fait pour les autres, refuser d'en faire autant pour Indiana. » Il l'envoya chercher pour apprendre d'elle si décidément elle acceptait ou refusait les apprêts disposés pour sa cousine. Elle hésita quelques instants entre le plaisir d'être mariée la première et la mortification d'épouser un homme sans fortune et sans titre. Mais l'observation que Sir Hugh avait faite sur la singularité de l'avoir mariée la dernière piquait son amour-propre et la personne de Melmont contribuait également à la déterminer. Elle se retira toutefois pour conférer quelques instants avec Miss Marland, qui montra la même répugnance à disposer de sa belle pupille en faveur d'un homme qui n'était point titré. D'ailleurs, cet établissement lui déplaisait parce qu'il présentait la triste perspective de résider à Clèves. Leurs délibérations furent interrompues par l'importunité de Molly Mill, qui leur annonçait le mariage de Miss Denel, dont elle venait d'être informée. Cette nouvelle termina la discussion. Au désagrément de ne pas être la première mariée du canton et d'être précédée par une pareille espèce, fit descendre Indiana précipitamment pour déclarer à son oncle que sa préférence pour Melmont lui faisait rejeter tous les autres partis. En conséquence, Eugénia fit partir le lendemain matin pour Southampton un exprès chargé de la lettre suivante. À Frédéric Melmont, écuyer. Vous serez, monsieur, le bienvenu à Clèves. J'espère que le bonheur qui vous y attend bannira tout sentiment pénible et qu'oubliant le passé, vous paierez d'un retour sincère l'amitié d'Eugénia Tyrold. Monsieur Tyrold, accompagné de Lavinia, se rendit à Clèves et s'excusa de n'avoir point amené Camilla. Il dit à son frère qu'Edgar était retenu par quelques incidents dont il n'avait pas encore une connaissance bien positive, mais qui retarderait indispensablement la célébration du mariage. Le chagrin qu'en eut le chevalier redoubla l'inquiétude de Monsieur Tyrold sur la manière dont il faudrait s'y prendre, dans le cas où l'on ne pourrait plus lui dissimuler la rupture définitive.